Débat ce matin sur un sujet de bioéthique particulièrement clivant, la GPA, la gestation pour autrui, aujourd'hui interdite en France. Fin août, Gabriel Attal a dit sa volonté d'ouvrir au sein du parti Renaissance un débat sur la légalisation de la GPA afin d'atterrir sur une GPA éthique, pour citer les mots d'un de ses proches. Qu'est-ce qu'une GPA éthique ? Est-elle réellement possible? On en parle ce matin avec Sylviane Agacinski. Bonjour.
Bonjour.
Philosophe, membre de l'Académie française, vous avez publié « L'homme désincarné » chez Gallimard, « Corps en miettes » chez Flammarion, deux ouvrages où vous abordiez notamment la question de la GPA. Bonjour Daniel Borillo.
Bonjour.
Juriste spécialiste de bioéthique, maître de conférences à Paris 10, chercheur associé au CNRS et co-auteur de l'ouvrage Penser la GPA chez l'Harmattan. Alors, première question à tous les deux, soyez les bienvenus. Comment avez-vous reçu cette volonté de Gabriel Attal de rouvrir le débat sur la GPA, vieux débat qui remonte au début des années 90, et ce terme de GPA éthique vous convainc-t-il, Sylviane Agacinski?
Oui, non, bien sûr. J'ai été frappée par l'idée d'ouvrir, il n'a même pas dit rouvrir, il a dit ouvrir, ce débat qui existe depuis plus de 30 ans. Mais c'est vrai qu'il avait 2 ans, lui, quand la Cour de cassation a rendu un premier arrêt qui, pour justement condamner absolument cette pratique qu'on appelait alors, à juste titre d'ailleurs, mère porteuse ou comme les Américains, maternité de substitution. Donc il semble faire ça peut-être pour paraître plus progressiste ou plus à gauche. Malheureusement,
c'est peut-être l'homme d'une autre génération aussi. C'est pour ça qu'il...
Non, pas seulement. C'est pas seulement une question de génération. Beaucoup de gens très très jeunes qui ont un peu réfléchi sur le droit et sur le droit des femmes ne sont pas victimes de cette illusion de progressisme. Et d'ailleurs, la gauche elle-même, que ce soit le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts jadis, c'est majoritairement, il y a eu des exceptions, élevé contre cette pratique. Comment peut-on imaginer une seconde, c'est peut-être pas la question que vous me posiez d'abord, on reviendra à l'éthique, mais que la dite GPA, je refuse absolument ce terme qui est fait pour masquer la chose, hein, c'est ce que disait Orwell, il y a des mots qui couvrent, il y a des mots qui cachent. Je reviendrai sur ce terme, si vous voulez bien, gestation.
Il s'agit de... Donc, c'est deux mots impossibles pour vous, GPA, éthique.
Ben, bien entendu,
c'est impossible, impensable,
pour moi, c'était exactement comme si on disait un esclavage éthique. Sauf que l'esclavage, il n'a pas été aboli parce que les esclaves étaient simplement maltraités, malheureux, pas bien traités, etc. Il a été aboli pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas confondre juridiquement, c'est un des piliers du droit et de l'éthique, les personnes et les choses. Les choses peuvent se donner ou se vendre, les personnes n'ont pas de prix. Donc ce que je dis, c'est que la maternité ne peut ni s'acheter, ni se vendre, parce que c'est à ce moment-là acheter ou vendre également un bébé. Et donc, la notion de GPA éthique est totalement absurde.
On a entendu votre hostilité, vous allez pouvoir la développer, mais la parole à Daniel Borillo dans une tribune à Libération. Vous avez salué le fait que Gabriel Attal ait ouvert une brèche dans ce débat, on l'a dit, et vous parlez de l'urgence d'un débat rationnel, démocratique, documenté, loin des slogans et des caricatures. La GPA est éthique, Gabriel Attal qui se saisit du sujet, vous applaudissez?
Oui, puisqu'en effet, je suis confronté aux problèmes juridiques que les personnes qui font des GPA à l'étranger trouvent du moment qu'ils s'essayent d'enregistrer ses enfants à l'état civil français, dont des problèmes déjà au niveau des consulats français à l'étranger, et après donc toute une évolution de la jurisprudence française et de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. Et je pense que Gabriel Attal, quand il a parlé des GPA éthiques, a voulu plutôt choisir le modèle de la GPA altruiste. Parce que vous voyez, au niveau du droit comparé, on trouve deux modèles, grosso modo. Un modèle de la GPA altruiste et un modèle de la GPA rémunérée.
Voilà, c'est le faire gratuitement.
Hein. Voilà, c'est en fait qu'il y ait une pratique strictement encadrée, à la fois médicalement et juridiquement. Par exemple, je vous donne quelques situations d'encadrement juridique d'une GPA qu'on pourrait considérer éthique ou altruiste, enfin peu importe le mot, c'est que la mère porteuse doit être majeure, qu'elle se trouve en bonne santé physique et psychologique, et elle doit avoir déjà vécu une ou plusieurs grossesses à terme, donc pour qu'elle ait déjà l'expérience donc de la maternité, doit répondre à des critères sociaux stricts. On voit dans la législation, on a déjà 40 ans d'expérience avec la loi anglaise, enfin la loi du Royaume-Uni, où on voit que...
pratique la GPA altruiste.
Altruiste, voilà. Et on voit effectivement qu'il y a énormément de critères sociaux stricts, comme évidemment les consentements du conjoint si la femme porteuse est mariée, avoir les moyens donc économiques pour ne pas dépendre, ne pas travailler, ne pas faire des grossesse pour vivre, vivre en couple de manière stable.
Donc vous dites que là où ça existe, c'est extrêmement codifié.
C'est extrêmement codifié, y compris puisque si vous voulez, à la fois dans les systèmes donc altruistes ou le système des GPA rémunérés, il y a un contrat qui est donc contrôlé par les avocats, par les assurances et dans les cas, par exemple, de la Californie, il y a aussi l'homologation judiciaire. Et c'est également le cas dans d'autres pays où les juges vont homologuer toute cette pratique pour éviter justement qu'il y ait l'abus et qu'il y ait donc l'exploitation. Il est évident que nous sommes d'accord, je pense, Madame Agacinski et moi-même et tout le monde, qu'on est tous contre l'exploitation et contre donc les abus d'une pratique que dans des pays du tiers-monde, effectivement, on constate des situations qui sont horribles et abjectes. Je pense que le droit et je pense que les débats doivent porter sur comment éviter ce type d'abus.
Comment répondez-vous, que répondez-vous, Sylviane Agacinski, à ce que vient de décrire Daniel Borillo, notamment la situation au Royaume-Uni?
Oui, au Royaume-Uni, justement, on a essayé d'encadrer la pratique, cette pratique, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a très peu de candidates, donc il n'y a pas assez de mères porteuses aux États-Unis. Donc les Britanniques continuent d'aller à l'étranger. Il y a des enquêtes précises sur ce genre. Non, il n'y a pas d'abus dans la GPA. C'est un abus absolu. Et c'est pourquoi moi je refuse avec beaucoup d'autres le terme de GPA qui nous fait croire qu'en fait on utilise tout simplement le ventre d'une femme. Aux États-Unis, l'expression qui s'est développée, c'était « ventre à louer »,« womb's for rent ». Et le mot « gestation » en France a été fait pour remplacer le mot « mère porteuse ». Pourquoi ? Pour barrer le mot « mère », pour supprimer la maternité, pour supprimer l'idée que la mère porteuse était une vraie mère et que c'était simplement une gestatrice, ça devenait un métier. Or, qu'est-ce qui se passe quand on utilise, comme on dit, une femme pour faire un bébé pour autrui? On est dans une instrumentalisation non pas de son utérus, non pas simplement de son ventre, mais de sa vie tout entière. Une femme qui est enceinte, c'est quoi? C'est pas juste un ventre gestateur. On est enceinte de la tête aux pieds, du soir au matin, 9 mois sur 9, avec cette communication à l'enfant. Il n'y a pas que la génétique, il y a aussi la biogénétique. Et puis, il y a aussi ce rapport avec l'enfant. Bref, quand on utilise une femme comme mère porteuse, on fait une chose qui a été dénoncée par le droit depuis longtemps et interdite dans l'adoption, c'est qu'on adopte par anticipation un enfant, on demande à une femme de porter un enfant pour l'abandonner à la naissance et que c'est un abus tout à fait intrinsèque. Et je terminerai en disant sur ce point, en disant que pardon, je passe un peu du coq à l'âne, mais pas complètement. Il y a un rapport de l'ONU qui vient de sortir, qui est absolument accablant sur la pratique des mères porteuses dans le monde.
Rapport signé de la rapporteure spéciale
voilà,
sur les violences faites aux
femmes. Et qui demande l'interdiction universelle, c'est aussi ma position, l'interdiction universelle de toute espèce d'utilisation des femmes comme des mères porteuses. Et surtout, ce qui est impensable d'un point de vue éthique et juridique, parce que pour moi, les deux ne se séparent pas, c'est que lorsque on n'a pas le droit de vendre ni de donner un bébé, ni même de se vendre soi-même, c'est le principe même de l'abolition de l'esclavage. C'est pour ça que les mères porteuses, doit être abolie, c'est parce que c'est une instrumentalisation du corps des femmes et que les féministes américaines se sont révoltées dès le début sur l'apparition de cette
alors,
pratique.
Qu'est-ce que le juriste Daniel Borillo répond aux arguments de Sylviane Agacinski?
Moi, je pense qu'il y a donc une vertu du droit par rapport à la manière dans laquelle on utilise les mots. Effectivement, le mot esclavage en droit a une connotation très très claire par rapport à toutes les conventions d'abolition de l'esclavage. Je vous invite à voir les femmes porteuses au Royaume-Uni, au Canada et en Californie, des femmes blanches de la classe moyenne sont très très loin des esclaves, et je trouve que c'est
faire... Le mot vous choque ?
Mais choque, parce qu'effectivement c'est banaliser l'esclavage. Enfin, comparer une femme blanche...
Vous connaissez la définition
de l'esclavage. Je vous ai laissé parler, madame.
C'est l'exercice du droit de propriété sur quelque chose ou sur quelqu'un.
Mais moi je considère qu'une femme... Je considère qu'une femme qui donne donc la possibilité à un projet parental, un couple stérile ou un couple d'hommes de faire un enfant, c'est pas une esclave, c'est une femme qui a donné dans son consentement libre et éclairé. Et je vous assure que, de par ma pratique, il n'y a pas d'esclavage chez les femmes blanches à Londres, en Californie, à Washington. On est loin de cette situation-là. Et je pense qu'effectivement, utiliser ce type de langage, c'est soustraire le débat. Évidemment que tout le monde est contre l'esclavage. Qui va vous dire qu'on est pour l'esclavage ? Il n'y a pas d'esclavage. C'est ce qu'il faut garantir, c'est qu'il y ait un consentement libre et éclairé. Et moi, je trouve que ce rapport, ce n'est pas un rapport des Nations Unies, c'est simplement un rapport de donc, la rapporteuse concernant la commission des violences faites aux femmes, est un rapport qui confond l'abus avec la situation normale. C'est comme si vous dites que, puisqu'il y a du mariage forcé, tout mariage est un mariage forcé. C'est pas parce qu'il y a la GPA que toute cette GPA est une GPA abusive. Bien évidemment qu'il y a l'abus, mais pour effectivement contrer l'abus, il faut réguler.
Vous êtes un homme, monsieur, pardonnez-moi de rappeler cette chose, un homme charmant d'ailleurs, mais vous ne savez pas ce que c'est que d'être enceinte. Il n'y a que les femmes qui savent ce que c'est que d'être enceinte, jour et nuit, d'avoir rapport avec cet être vivant qu'on porte. On demande à une femme de porter un enfant, puis de l'abandonner. C'est tout simplement inhumain et contraire aux principes fondamentaux du droit.
Daniel Borio, s'il vous plaît.
Je suis certes un homme, je suis un homme homosexuel. Je peux vous dire que pour un homme homosexuel, le parcours de pouvoir adopter un enfant ou avoir un projet parental avec son compagnon, c'est très très compliqué, et je pense que nous méritons le respect de pouvoir en fait avoir un parcours de respect, des responsabilités pour un projet parental responsable.
Merci à tous les deux. Daniel Borio qui vient de s'exprimer et Sylviane Agacinski, merci d'avoir été au micro d'Inter.